Si deux d'entre vous s'accordent, nous accorder avec Marie. Ce matin, j'ai évoqué Cana, hein, et Marie, elle s'accorde avec Jésus. Et elle est dans la foi. Et ici, à Pellevoisin, quand elle dit à Estelle, tu seras morte ou guérie, Marie ne sait pas. Et c'est bon, hein. Il y a ce cheminement, et grâce à elle, nous nous accordons avec Jésus. Et alors, grâce à elle qui dit « Mon fils ne peut rien me refuser » et qui dit cela parce que elle a été constituée reine, elle qui s'est fait servante, elle qui a connu l'obscurité de la foi et la pauvreté de l'espérance bien plus que nous. Oui, mais je me demande, allez-y, mettez, moi aussi j'avais l'impression. Ah bon ? Ah. Oui, Marie a connu l'obscurité de la foi bien plus que nous, et la pauvreté de l'espérance bien plus que nous. Et c'est aussi parce qu'elle est immaculée. Hein, le péché, ça nous endurcit. Les conséquences du péché font que notre peau est un peu épaisse. Hein. On le voit bien. Hein. L'amour nous rend plus sensibles. Hein. Il y a comme une accoutumance au mal. Hein. Il peut y avoir, malheureusement. Hein. Et ce qu'on appelle l'endormissement de la conscience. Hein. Et puis parfois, c'est aussi à cause la tristesse, du manque de courage. Ici, Marie parle des cœurs endurcis. Il y a un an et demi, moins d'un an et demi, ça m'a poigné, hein, puisque j'ai cité cela, le cœur endurci, et puis il y avait là des adolescents. Et j'aurais posé la question, à votre avis, qu'est-ce qui endurcit le cœur? Et moi, très spontanément, le cœur endurci lié à la Bible, on se dit, c'est le péché. Et ils m'ont répondu, la tristesse. La souffrance. Et ils m'ont enseigné. Et c'est vrai que les conséquences du péché peuvent endurcir leur cœur. Hein. Et clairement. Quand Jésus dit aux pharisiens à cause de l'endurcissement de votre cœur, il y a cette part qui est la conséquence de nos fautes. Ou plus que ça. Il y a cette part qui est liée à le fait de nous détourner du bien, mais il y a aussi un endurcissement dont nous souffrons tous et dont le Seigneur veut nous guérir. Je pense que quand Jésus parle des cœurs endurcis, quand Marie parle de ça, il y a vraiment beaucoup de compassion. Et elle et lui, leur cœur est n'ont jamais connu le repli sur eux-mêmes. Et le cœur de cette femme, il est le plus sensible de tous les cœurs des créatures. Alors c'est pour ça, je dis, l'obscurité de la foi, elle l'a expérimentée plus que nous encore. À cause précisément de la pureté. Quoi. Et la pauvreté de l'espérance, parce que en elle, rien ne vient diminuer l'amour, la capacité d'aimer, hein, rien. Et donc, l'amour, il cherche le bien. Et quand le bien n'est pas encore là, c'est là l'heure de l'espérance. Hein. C'est le désir qui brûle, hein, l'espérance. Lié à une assurance, mais il y a dans l'espérance cette dimension du désir. Hein. Ce qu'on possède, dit Paul, on ne le désire plus, ce qu'on l'a. Allez, l'espérance. Alors, voilà, Marie, elle a la première, sur le chemin de la foi, première des disciples, celle qui le suivent, qui le suit vraiment, celle qui est bien heureuse, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour. parce que elle a accueilli la parole. La parole s'est faite chair en elle, et c'est la parole, elle a façonné tout entière. Et elle a grandi. Elle a grandi dans la foi, elle a grandi dans l'espérance. Hein. Vous vous souvenez? Quand Jésus, à 12 ans, dit à Marie « Pourquoi me cherchez-vous » Ce que nous dit l'Évangile, ils ne comprirent pas. Ils ne comprirent pas. Et un peu plus tôt, oui, 12 ans plus tôt, ils s'étonnaient de ce qu'on disait de cet enfant. Croître, hein. C'est bon, je rappelle cela parce que dans notre vie avec le Seigneur, il y a la dimension de purification, de guérison, il y a aussi la croissance. On ne reproche pas à un enfant d'être un enfant. Et le Seigneur, oui, c'est lui qui rythme le rythme, qui donne le rythme de notre croissance. Le fait de voir que j'ai encore à grandir, j'allais dire, faut que ça résonne comme une bonne nouvelle. J'ai encore du chemin à faire. Ben oui, promesse. C'est beau chez l'enfant, hein, ce désir de grandir, quand je serai grand. Les désirs, quoi. Et en même temps, ben, il le vit en jouant, quoi. En étant à ce qu'il doit être maintenant. Oui, cette tension. Grandir. Alors, cet après-midi, j'ai donné comme titre à l'enseignement la deuxième partie de ce qui est écrit sur l'ex-voto. Elle m'a obtenu de son fils ma guérison entière. Ici, à Pelvoisin, on écrit deux fois. Vous avez écrit une lettre à Marie, mais ici, à Pelvoisin, elle reçoit la lettre. Et puis ensuite, elle dit à Estelle, maintenant tu vas écrire quelque chose. Ce sera plus sur du papier, ce sera sur du marbre. Et tu vas l'écrire et tu vas le mettre ici, où ils n'ont rien. Tu vas l'afficher. Tu vas écrire. Alors, je vous partage, de fait, dans l'histoire du sanctuaire, il y a une chose que j'ai constatée, assez surprenante, c'est que cette plaque que Marie a commandée, pendant plus d'un siècle, on la connaissait, mais elle a été comme mise de côté, on en parlait très peu. J'ai fait cette constatation que des chrétiens qui venaient prier parfois, plusieurs fois par semaine dans la chapelle, n'avaient jamais vu la plaque d'Estelle. De fait, au début, elle avait été mise, vous connaissez pas les lieux, mais elle avait été mise tout près de la statue. Donc, quand on voyait la statue, on voyait la plaque d'Estelle. Mais avec l'installation du couvent, c'est-à-dire en 1893, c'est vieux, hein, on a décidé de la déplacer. Estelle s'est plainte. Mais de fait, elle n'était qu'une ancienne domestique. Et la comtesse de La Rochefoucauld, qui a fait beaucoup de choses bonnes pour Estelle, avait aussi ses limites. Ça s'est manifesté à plusieurs moments. Et là, elle a dit à Estelle, voilà, mettez-vous de côté, quoi. On fait les choses comme on veut, chez nous. De fait, c'était chez eux. Et alors, l'ex-voto d'Estelle a été relégué dans un coin. Et derrière une sorte de pilier, ce qui fait qu'on ne le voyait pas. Et alors, j'ai même réalisé, bien plus tardivement, que jusqu'à ce que les travaux de restauration soient engagés, la communauté des religieuses qui priaient, les dominicaines, ne voyait jamais cette plaque que Marie avait commandée. On voyait toutes les autres. Les sœurs nous disent de temps en temps, il faut faire attention parce que ça donne des distractions une fois qu'on a repéré des fautes d'orthographe, quoi. Hein, vous voyez, ces petites choses-là. Bon. C'est beau de voir des ex-votos parce qu'on se dit, chacun, c'est une histoire sainte, une belle histoire. Oui, mais celui d'Estelle, il avait été oublié. Alors, C'est une injustice, parce que c'est le seul que Marie a commandé. Vraiment. J'ai médité devant ce texte voto. J'ai médité et puis je me suis rendu compte, alors je ne sais pas si vous avez le... Vous n'avez peut-être pas pris avec vous le document hein, qu'il y avait dans votre pochette « Pèlerin, bienvenue à Pelvoisin » et à l'intérieur duquel il y a tout le récit, hein, en concentré, hein, du cheminement d'Estelle avec notamment la lettre qu'elle a écrite. Et cette lettre qui touche le cœur de mère de Marie, hein, je le rappelle. Voilà. On écrit comme on est. J'aime dire ça, avec le Seigneur, c'est comme... C'est comme chez McDonald's, venez comme vous êtes. Hein vous l'avez lu à la grotte. Alors moi, je l'ai lu pendant plusieurs fois. Je connais, je suis à Pelvoisin depuis 7 ans, mais en fait, j'aime ce lieu depuis plus longtemps. Ça fait, je crois, une douzaine d'années que j'ai dans le porte-document qui m'accompagne partout le récit des apparitions. Il y a quelque chose là. Et en même temps, en arrivant ici... Ah, et là, en fait, j'ai découvert l'ex-voto, compris qu'il avait l'importance. Alors, je connaissais la lettre d'Estelle. Et puis, en comparant avec l'ex-voto, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'elle avait écrit qui n'était pas juste, qui n'était pas tout à fait chrétien. Alors, je dis ça aussi pour nous encourager. Hein. Est-ce que ma lettre est parfaite? Oh non. Et alors, elle est une main tendue. Ce qui est tellement important, c'est que tu tends la main à Marie, et elle va la saisir, et elle t'emmènera plus loin. Hein et comme je le disais tout à l'heure, à l'enfant, on ne reproche pas d'être un enfant, quoi. À quoi je fais allusion? À cette phrase qui arrive assez vite dans la lettre d'Estelle. Juste auparavant, elle vient de dire... « Accordez-moi donc de votre divin fils la santé de mon pauvre corps pour sa gloire. » Bon, c'est bien Jésus. Il y a de belles choses, hein, de très très belles choses dans cette lettre. Et elle sait que c'est Jésus qui guérit. Elle demande la santé de son corps. Elle est malade et c'est pour la gloire de Jésus parce qu'elle a reçu comme une mission de la part de Jésus de s'occuper de ses parents. Et puis, elle dit un tout petit peu plus loin, « Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m'obtenir une entière guérison, vous pourrez du moins m'obtenir un peu de force pour pouvoir gagner ma vie et celle de mes parents. » Si vous ne pouvez m'obtenir une entière guérison, elle m'a obtenu ma guérison entière. Je vous disais hein, que dans les apparitions, il y a ceci de très touchant que Marie reprend les éléments de langage d'Estelle. Tiens, ça m'a alerté. Si vous ne pouvez m'obtenir une entière, elle m'a obtenu ma guérison entière. Tiens. Et puis alors, je vous relis la phrase. Examen de théologie. Qu'est-ce qui n'est pas chrétien dedans? Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m'obtenir une entière guérison, vous pourrez du moins m'obtenir un peu de force pour pouvoir gagner ma vie et celle de mes parents. Je dis que ce n'est pas complètement chrétien. Vous avez repéré? Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés. Mais, ben oui, et de fait, en fait, ça nous rejoint. Parce que, et je me dis, pour moi-même, hein, qui ai mis du temps à repérer, ben oui, je fais souvent ce raisonnement-là. Face au mal dont je suis victime, qui me survient, je pense au mal que j'ai fait. Et je fais une correspondance. Ben oui, moi aussi j'ai fait du mal. Et donc, ouais, peut-être que je n'ai pas le droit à être libéré du mal qui me frappe. Pas complètement, quoi. À cause de mes péchés, vous ne pouvez m'obtenir une entière guérison. Ah oui. Et est-ce que c'est bon de prendre conscience de ses péchés? Ah oui, bien sûr. Hein. Estelle en a une conscience et il y a ceci de bon. Hein. Cette phrase, quand je dis « elle n'est pas totalement chrétienne », oui, elle n'est pas totalement. Mais il y a cette qualité de cette femme qui reconnaît qu'elle a péché. Alors, je vous l'ai raconté hier rapidement, mais je vais revenir dessus. Hein. Marie a dit à Estelle « regardons le passé » et lui a montré tous ses péchés dans leur gravité réelle. Waouh! Et je vous l'ai dit, hein, c'est l'expérience du purgatoire que décrit Estelle. Des années plus tard, un adolescent d'une famille très, très proche d'Estelle, qui a beaucoup fait pour elle, ce sont eux qui ont fait construire ce grand bâtiment que ceux qui logent à Mère Teresa et Jean-Paul II hein, laissent sur leur droite ou sur leur gauche quand ils descendent de leur droite, hein, ce grand bâtiment-là, qui était un hôtel construit pour accueillir les pèlerins. Et c'est le plus gros ex-voto de Pelle voisin, parce que la famille en question, qui était de riches industriels de la région lilloise, on fait construire ça en remerciement d'une aide qu'une maman avait reçue pour aller au secours de son enfant qui était tombé d'un train roulant à pleine vitesse. Voilà. Alors, allez, sa petite fille fait une fausse manœuvre, ouvert la portière, nous sommes en 1899, et la maman voit sa petite fille projetée hors du train, qui roule à pleine vitesse. Et la maman entend une voix qui lui dit à l'intérieur d'elle-même, « Ta fille porte mon scapulaire et toi aussi tu portes mon scapulaire, va à son aide et je t'aiderai. » Et la maman saute du train. Oui, oui, c'est pas du cinéma. Alors, elle est étourdie sur le coup, mais elle se réveille, rien de cassé. Rien de cassé. Et elle trouve sa fille qui, elle aussi, mais sur la voie, là, et qui, elle aussi, n'a rien de cassé. Elle récupère sa fille, elle la met en sécurité, il y a un train qui passe. Et puis, elle a encore un peu d'énergie pour aller jouer à un poste de garde barrière qui est à quelques distances. Elle raconte ce qui leur est arrivé. Et là, elle s'évanouit une nouvelle fois pour de bon. Et c'est là qu'on la retrouve. Et la famille, en reconnaissance de ça, fait construire cet hôtel pour pouvoir accueillir des pèlerins. Et ils sont venus en aide à Estelle aussi pour l'assister très concrètement, lui trouver un logement. Et l'un des fils il avait 15 ans, il a interrogé Estelle sur comme un adolescent peut faire, et est allé voir Estelle, c'est quoi les péchés que Marie vous a montrés, quoi? Parce que quand elle raconte ça, elle dit, je tairai hein, ce qu'elle m'a dit. Et elle a absolument refusé, comme elle refusait absolument de répondre à sa question, comment était le diable? Elle ne voulait pas lui dire comment il était. Elle ne pas nourrir l'imaginaire. Mais elle lui a dit, tu sais, j'aurais aimé être 6 pieds sous terre, quoi. J'avais tellement honte, quoi. Cette douleur. Surprise, quoi. Prise de conscience. Et pour eux, pour nous, elle qui a un langage très simple, hein, pour nous dire ce qui s'est passé, elle dit, il y a des fautes que je croyais légères et dont Marie m'a montré la gravité. C'est ça le purgatoire, quoi, hein, de fait. Pour que le repentir s'empare, quoi. De fait, Estelle, quelques instants avant, avait dit à Marie, si j'ai le choix, j'aimerais mieux mourir parce que je suis bien préparée. Maintenant que je suis bien préparée, sans le relever explicitement, Marie lui montre qu'elle était un peu prétentieuse. Ah non, t'es pas tout à fait prête, quoi. Faut passer quand même par le salon de beauté avant d'entrer dans la salle des noces, hein. Le vêtement des noces, et oui, c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Ah oui, tu avais conscience de tes fautes. Regardons. J'insiste hein, là-dessus, c'est regardons. Et Estelle, hein, dans le récit qu'elle nous en livre, dit bien il y a la tristesse, mais beaucoup de douceur et de bonté dans le regard que Marie porte sur elle à ce moment-là. Elle se fait gronder par quelqu'un de bienveillant. Je crois que nous en avons l'expérience. Hein. Ça porte plus de fruits quand c'est quelqu'un de bienveillant qui nous gronde, qui nous corrige. Parce que nous n'avons pas peur qu'il veuille se venger, que nous allons, il ne va plus nous aimer. Il y a tellement cette blessure en nous. Hein. Est-ce que je suis aimable? Alors en tout cas, Marie le fait. Regardons. Et le pluriel, hein, c'est ensemble. C'est pas toute seule. Parce que nous le savons aussi, hein, si je suis tout seul face à mon péché, je risque d'être pris de vertige. C'est vraiment avec elle. Regardons. Et puis le lendemain, Tout ceci est passé, hein. Tout ceci est passé. Nous l'avons regardé. Marie lui dit d'ailleurs courage, hein, avant de lui faire de nouveaux reproches. Là. Le lendemain, elle lui fait de nouveaux reproches après lui avoir dit courage, parce que c'est un courage, hein, que de regarder notre passé. Alors, ses yeux pleins de bonté nous donnent ce courage-là, nous aident à l'accueillir. Hein. Et puis, tout ceci est passé. Tu as, par ta résignation, racheté ses fautes. Et Marie fait voir à Estelle ce qu'elle a fait de bien. Alors, à ce même adolescent, Estelle a dit « Figure-toi que j'ai été très surprise quand il m'a montré le bien que j'avais fait. » Elle a été surprise, stupéfaite, quand elle a pris la conscience de ses fautes. Mais elle dit « Ce que Marie m'a montré de bien dans ma vie, c'est pas ce que j'avais imaginé. C'était pas les jours où j'étais content de moi, où j'étais fier. C'était des jours difficiles. » Et ça aussi, c'est une belle leçon, quoi. Comment je regarde ma vie? Quand Marie dit « Regardons le passé, dans le bien comme dans le mal. Hein. Regardons-le avec elle. Laissons-lui nous montrer. » Parfois, c'est par les autres, c'est très souvent par les autres qu'elle passe pour nous donner. Et nous savons, nous avons encore, nous découvrirons ce qu'il y a eu de bien dans notre vie. Mais en tout cas, Estelle prend cette conscience, c'est pas pour qu'elle en aboutisse à la conclusion que, conformément à ce qu'elle avait écrit, qu'elle mérite encore moins d'être guérie. C'est pour que la guérison qui s'opère en elle soit pas simplement la santé, la guérison de son corps. Une entière guérison, écrit Estelle, toute seule dans sa lettre. Ma guérison entière, lui fait écrire Marie. C'est ma guérison, c'est-à-dire c'est la guérison de moi. C'est-à-dire la guérison de moi tout entier. Cette guérison dont l'Écriture apporte la promesse et dont Jésus parle quand il se présente comme un médecin. Il y a dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ces évangiles qu'on appelle synoptiques, parce qu'ils adoptent à peu près le même regard sur la vie de Jésus, même schéma. Il y a deux épisodes et même un troisième qui se suivent, parce que ces évangiles, ils ont des choses en commun, qu'ils ont des différences. Et il y a dans les trois, Matthieu, Marc et Luc, des épisodes qui se suivent dans ce même ordre. Où Jésus est face à un homme, il y a une foule, et l'homme va se lever grâce à la parole de Jésus. Le premier de ces épisodes, c'est le paralytique. Vous vous souvenez ? Jésus est à la maison, il y a beaucoup de monde, quatre hommes arrivent, portent un paralytique, et puis découvrent le toit pour le faire descendre devant Jésus. Donc c'est un malade, Et vous vous souvenez de la première parole que Jésus lui adresse ? Tes péchés sont pardonnés. Et là, tes péchés sont pardonnés. Ouais. Puis après, il va dire, qu'est-ce qui est le plus difficile Et pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis... dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Puis après, qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a un autre homme qui va se lever à la parole de Jésus. Non, pas Bartimée. Non. Il s'appelle Lévi. C'est un pécheur public. C'est-à-dire, il avait un métier qui était incompatible avec la loi. Il est dans un état de péché, on dit ça. Je suis dans une situation irrégulière. Et Jésus lui dit, suis-moi, l'homme se lève. Et il y a deux verbes qui sont utilisés. C'est les verbes aussi qui sont utilisés pour la résurrection. Jésus s'est levé. Se lever. Et il y a une foule. Et puis après, Lévi, il donne un grand festin pour Jésus, où ils font la fête, un repas partagé. Si quelqu'un ouvre et la porte à laquelle je frappe, j'entrerai, je mangerai avec lui, dit Jésus dans l'Apocalypse. En tout cas, il y a ce repas. Et là, les pharisiens, les grincheux, des deux côtés, il y a les grincheux. Hein. Dans les deux épisodes, il y a les grincheux. Avec le paralytique, il y a ceux qui disent « mais il blasphème !» Et puis avec Lévi et ses amis, « mais qu'est-ce qu'il fait avec les pécheurs ?» Il mange avec les publicains et les pécheurs. Vous vous souvenez ce que dit Jésus ? Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Alors pour le dire très rapidement, on lui apporte un malade, il parle du péché. Il est avec un pécheur, il dit « mais c'est un malade ». Et ce n'est pas un hasard. Hein. C'est vraiment pas un hasard. Et il y a les deux choses. Hein. Et de fait, ouais, ma guérison entière. Les contemporains d'Espel disent que le 19 février, non seulement ils se sont rendus compte qu'elle était vraiment guérie, et donc c'est un miracle, mais ils disent que cette femme, qui était déjà une belle personne, quoi, ils l'ont vue changer. Elle s'est engagée sur ce chemin de la sainteté. Ouais, elle n'était pas sainte du jour au lendemain, hein, mais il y avait quelque chose qui était changé. Elle était dans cette perspective de guérison entière, d'accueillir la grâce qui nous refait, qui nous restaure. Ah oui, ma guérison. Cette guérison qui annonce ce que nous attendons tous, hein, que nous disons dans le « Je confesse à Dieu hein, » et la vie éternelle et la résurrection. Cette guérison qui est en fait le mystère, notre participation au mystère pascal du Christ, de mort et de résurrection, c'est pour nous recréer ma guérison entière. Et c'est très touchant que Marie va se servir de la demande d'Estel et la conduire plus loin. Et même avec le même mot, quoi. Hein. Ben oui, ce que Dieu donne, le regard de Dieu sur nos vies, Dieu emploie nos mots à nous, avec une profondeur, avec une richesse, une densité plus grande. Ça n'enlève rien de la demande d'Estelle, mais ça lui donne beaucoup plus. Quelle est cette guérison hein, qu'il opère en nous, que nous voulons demander, quoi. Et il y a la dimension, je veux dire, du repentir, de la conversion, de la recréation. Chez Estelle, pour être un peu plus concret, il y a les témoins. Bien sûr, il y a eu une enquête faite par l'évêque du temps, Monseigneur de la Tour d'Auvergne, hein, très vite. Hein. Et donc, on a toute cette masse d'informations. Alors, elle avait des défauts. Notamment, alors, chez elle, elle pouvait être entêtée. Et puis, elle était aussi impressionnable. Et de fait, dans son parcours, hein, ensuite, lié aussi à l'appel qu'elle a reçu et l'appel au calme, hein, il y a dans sa réputation de sainteté quelque chose de la douceur. L'entêtement qui guérit et qui cède la place à la douceur. L'entêté, il veut imposer sa manière de voir, sa manière de faire. Hein. Il ne peut pas concevoir qu'il y a un autre chemin. La vraie douceur est une très grande force. Hein. La douceur, ce n'est pas la mièvrerie, c'est au contraire. Et garder l'élan, mais rester disponible pour que ce qui peut peut-être qui ne peut pas se faire par ce chemin, va se faire par un autre. Et puis, cette femme qui était impressionnable et qui donc, de temps en temps, pouvait perdre ses moyens, on le voit notamment dans l'exercice de sa mission, elle a fait preuve d'une liberté, d'un courage, à aller jusqu'à Rome, voir le pape. Il y a eu des moments où ça a été très tendu avec la comtesse La Rochefoucauld. Elle a tenu le cap. Il y a un épisode, notamment, parce que le comte et la comtesse La Rochefoucauld étaient les propriétaires de la maison. Hein, ils ont gardé cette propriété. Et il y avait notamment chez la comtesse, avec beaucoup de bonne volonté, quand même, il y a eu une tentation un peu de mettre la main, hein, contrôler les choses. Estelle a écrit, en fait, la comtesse aurait voulu que je dise que la Sainte Vierge était apparue pour sa famille. Mais non, c'était pas pour sa famille, c'était pour tout le monde. Et notamment en lien avec la fondation du couvent, ou les projets, moment, la comtesse et le comte envisagent d'écrire une lettre, préparent une lettre à l'archevêque de Bourges pour qu'ils aient le contrôle sur les gens qui auront accès à la chapelle. Alors, d'une façon charismatique, ça les a surpris eux-mêmes, Estelle, qui était dans la maison, a eu connaissance de cette conversation qu'ils avaient tous les deux dans leur salon. Et elle, toute domestique qu'elle était, elle est allée ouvrir la porte du salon, elle a forcé la porte du salon, et elle s'est campée devant eux, elle a dit: ce que vous voulez faire, c'est pas ce que la Sainte Vierge a voulu. Ils en ont été stupéfaits. La comtesse racontait cela en disant: mais je ne comprends pas, quoi. Enfin, elle s'est pas laissée impressionner, quoi. Et ouais, douceur, ma guérison, et les petites choses là. Et c'est pour ça, et je parlerai ensuite demain, là, demain après-midi, hein, cette parole de Marie: publie ma gloire. Et puis, au-delà de publier ma gloire, cette mission qu'Estelle a reçue au mois de juillet. Hier, en vous rapportant l'apparition du 2 juillet, hein, il y a eu 1er, 2, 3 juillet, je soulignais rapidement que Marie, ce jour-là, élargit l'horizon d'Estelle en lui disant: le cœur de mon fils a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut rien me refuser, par moi il touchera les cœurs les plus endurcis. Et puis Marie va dire: je suis venu particulièrement pour la conversion des pécheurs. Et elle lui dit: est-ce que ta guérison n'est pas un des plus grands signes de ma puissance? Et ta guérison, justement, cette guérison qui est l'œuvre de la recréation, qui est l'œuvre de la grâce, et qui est le plus grand signe de ma puissance, Estelle, tu as laissé la grâce du Christ te visiter. Alors tu vas continuer à apprendre. Tu as appris de moi à laisser la grâce te visiter. Toute sa vie, Estelle a grandi. Marie lui a dit: répète-toi souvent ces paroles, refais ce chemin. Et parce que tu as accueilli la grâce qui te guérit, alors tu peux être signe pour les autres. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, de ce que nous avons à faire, à vivre, qui s'enracine aussi, qui prend son origine dans ce que il nous constitue témoin, dans ce que Jésus, la grâce du Christ, opère en nous. Ta guérison n'est-elle pas une des plus grandes preuves de ma puissance? Sa guérison. Alors pour elle, ça a pris cette forme-là. Mais je vais revenir un petit peu en arrière sur le cheminement des apparitions. Il y a eu, hein, pour qu'elle, cette guérison s'opère, il y a eu cette première parole de Marie: mon fils va se laisser toucher. Tu souffriras encore 5 jours en l'honneur des 5 plaies de mon fils. Tiens, guérison et plaie. J'ai mis du temps, et cette parole, les 5 plaies de mon fils, j'entendais, je la lisais. Puis un jour, c'était en parlant dans cette salle à des chrétiens chaldéens dont la paroisse s'appelait Saint Thomas, Saint Thomas l'apôtre, je me suis dit: ah tiens, mais voilà un homme qui a touché les plaies du Christ et qui a été invité par Jésus à toucher les plaies de Jésus. Mais les plaies qu'il a touchées, c'était les plaies du ressuscité. Et de fait, les évangiles nous disent que Jésus, pour attester de la vérité de sa résurrection, quoi, montre ses plaies. Et à cet apôtre Thomas, hein, qui ne veut pas apporter foi à ce que lui disent les autres, aux témoins, mais qui dit « je voudrais toucher, non seulement voir, mais toucher », Jésus dit « viens, touche mes plaies ». Il va se laisser toucher. Qu'est-ce à dire, hein? Toucher les plaies du ressuscité. 5 jours. Ça paraît étonnant, hein? Tu dois souffrir encore 5 jours, mais elle a tellement souffert. Mais oui, mais permet ou vient toucher dans ces 5 jours, c'est la durée, c'est aussi la passion du Christ, les 5 plaies, c'est pour nous dire il a porté toutes nos infirmités. Les mains, les pieds, le cœur, la tête, quoi. Il y a cette symbolique-là. Toutes nos souffrances, il les a portées. Et laisse-le te visiter. Et laisse-le te visiter, lui, le ressuscité, qui te montre que ses plaies, elles sont désormais glorieuses. Faire cette expérience du ressuscité, hein, là, maintenant. Alors, oui, je pense qu'on peut lire là ce que Marie dit à Estelle de cette façon-là. Et ensuite, elle lui dit, et dans 5 jours, tu seras morte ou guérie. Eh oui, mais parce que si justement tu as accueilli cette proximité de Jésus ressuscité avec ta vie dans sa souffrance et dans toute ta souffrance, alors tu n'as plus peur de mourir. Alors, oui, puisque le ressuscité est là avec toi, tu es prêt à le suivre. Et je voudrais vous parler ici de Josué. Depuis quelques années, nous proposons ici une retraite qui s'appelle 5 jours appel voisin. Alors c'est une retraite, en fait c'est une retraite personnelle sous la forme d'un accompagnement. Alors, nous avons pris conscience que de fait, ce cheminement qu'Estelle a parcouru, ça fait penser, j'allais presque dire en mieux, aux exercices spirituels de Saint Ignace. Il y a vraiment une pédagogie d'un chemin d'accueil de la grâce de Dieu qui nous refait. Alors, pendant ces 5 jours, on invite les gens à cheminer ainsi, à prendre le temps, 5 jours. Ah oui, tu souffriras encore 5 jours. Prends, et on va, voilà. Et tu vas laisser résonner avec ton existence ce qui s'est passé pour Estelle. Et un jour, je reçois le téléphone d'un certain Hubert, et qui me dit, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Simon de Sirène. Alors, c'était à Angers. C'est des maisons où des personnes très handicapées sont accueillies, hein, une colocation, il y a des personnes valides, et ils vivent ensemble une vie communautaire. Et il me dit, nous avons parmi nos personnes accueillies un certain Josué, il a la foi, mais je pense que ça serait bien pour lui de suivre cette retraite. Voilà. Alors Josué, il avait 32 ans à cette époque, et à l'âge de 20 ans, alors qu'il était un garçon un peu, je pense, un Z, quoi, un surdoué, avec des dons musicaux et autres, intellectuels, frappé d'une maladie dégénérative, à l'issue fatale, il sait qu'il va en mourir, et qui lui a fait perdre peu à peu sa mobilité, il est dans une chaise roulante, il s'exprime avec beaucoup de difficultés. Il n'a plus la maîtrise de ses mouvements, il ne peut pas se tourner tout seul dans son lit la nuit. Pendant la retraite, le Seigneur avait envoyé en même temps que lui une médecin. Et c'était providentiel, puisqu'il a eu une crise une nuit, quoi. Et heureusement, elle était là. Et Josué, ouais, est inscrit par Hubert pour venir à la retraite. C'était un mois et demi avant la retraite. Puis je n'ai pas de nouvelles d'Hubert. Et 2 jours avant la retraite, je prends contact avec Simon de Sirène pour dire « Mais est-ce qu'il vient bien ?» Et là, on me dit « Vous savez, Hubert, il vient de mourir, très brutalement. Un cancer l'a emporté en quelques semaines. Ouais. » Mais Josué vient. Et Josué va venir avec un assistant. Et Josué est arrivé avec Timothée. Hubert m'avait dit, « Oh, vu ce que vous me dites sur la retraite, je serai avec Josué pour l'aider. » Bon, Timothée vient, il me dit, « Non, moi, je vous laisse tout seul avec lui. »« Ah bon ?» Eh bien, alors nous avons cheminé, Josué et moi. Il a cheminé. Et, quel défi, quoi, hein. La présence de cet homme si touchant, quoi. Qui en plus était venu, vous voyez, inscrit par Hubert, quoi, marqué par le fait que Hubert, qui comptait vraiment pour lui, était mort, quoi. Hein, cette expérience de la mort de l'être proche, quoi. Hein. Et alors nous lisons, et puis je l'interroge, lui disant, Josué, en quoi ça peut être une bonne nouvelle quand Marie dit, tu seras morte ou guérie? C'est un peu en tremblant que je disais ça, mais en même temps, moi je suis serviteur, c'est les paroles que Marie a prononcées, donc je veux bien croire que Josué aussi peut les entendre, que justement, tout le monde peut les entendre. Et alors Josué me dit, parce qu'elle sait que la mort, c'est le passage pour aller vers Dieu. Et ça, beaucoup de gens me l'avaient déjà dit, je l'avais compris moi aussi. Et puis, il continue. Et elle sait que même si elle meurt, elle pourra continuer à aider ses parents, mais autrement. Alors là, waouh! Ah ouais. Dans la situation dans laquelle il était, quoi. Le réalisme. Oui, j'ai reçu une belle leçon de foi ce jour-là. Et d'espérance, quoi. Et qui m'a fait dire, qui m'a fait comprendre aussi quelque chose de ce que Marie dit à Estelle, quoi. Oui, même pour tes parents, sois prête. Et aucune des promesses que mon fils fait est vaine. Il t'a fait cette promesse que tu allais les aider, tu l'as entendu, cet appel. Bien oui, tu pourras. Mais fais-moi cette confiance jusque-là. Ah oui. Mais le lendemain, mon fils te rend la vie, tu seras guéri samedi. Alors Estelle dit, si j'avais le choix, j'aimerais mieux mourir maintenant que tu es bien préparé. Bon. Et Marie lui dit en souriant, ingrate, si mon fils te rend la vie, c'est que tu en as besoin. Alors je vais m'arrêter aussi sur cette parole-là. Estelle dit, mes parents ont besoin de moi. Et c'est pour ça que je demande la guérison. Hein. Et il y a quelque chose de très noble. Notre évêque, il met beaucoup ça en lumière. Hein. Sa demande est liée à ce qu'elle considère comme sa mission. Quand je dis qu'elle considère, la Providence lui a montré le cheminement que je vous ai rapporté hier. Hein. Telle maturité à l'âge de 20-22 ans de cette femme qui choisit ça, quoi, ce chemin. Elle sait que ses parents ont besoin d'elle. Mais quand Marie lui annonce qu'elle va guérir, c'est lui dit, tu as besoin de la vie. C'est d'abord ton besoin à toi. C'est un cadeau. Tu as besoin de cheminer encore. Et là, mon papa, qui a fait sa Pâque il y a quelques années, il avait un cœur très fragile. Et il m'a fait un jour cette confidence qui m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, je sais que je peux partir comme ça, d'un instant à l'autre. De fait, c'est ainsi qu'il est parti un petit matin. Et ce qui fait que je reçois chaque jour comme un cadeau de Dieu. Ah oui, c'est que tu en as besoin. Tu en as besoin. Pourquoi en as-tu besoin? Pour grandir. Pour que la parole que tu as reçue puisse vraiment s'enraciner et porter tout son fruit. Tu as besoin de la vie. C'est une belle parole à entendre, celle-là. J'ai besoin de la vie. J'ai besoin de vivre ce jour que Dieu me donne. Moi, je ne sais peut-être pas comment, pourquoi, hein, mais tu en as besoin. Et lui sait que tu en as besoin. Le lendemain, Marie lui dira, tes parents ont besoin de toi. Oui, mais c'est d'abord pour toi. L'adage est connu, il est éculé, mais la vérité est profonde. Tu aimeras, du moins, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, de temps en temps, on le cite un peu comme un oreiller de paresse. Vous savez, quelque chose pour justifier des choses, une attitude pas tout à fait donnée. Mais il y a quelque chose de très vrai. Le premier qui m'est donné à aimer, c'est moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous le savons. Nous aimer comme Dieu nous aime pour pouvoir aimer les autres. Tu en as besoin. Entendons cela. Une révélation, quoi. Estelle, c'est une révélation pour elle. Il y a la conscience. Alors sans doute que nous avons des projets les uns et les autres, nous portons des aspirations, oui. Eh oui, Dieu sait pourquoi nous avons besoin de la vie. Eh bien, et puis, je vais finir là-dessus. Ouais. Guérison. La guérison, je le dis aussi parce que nous savons que d'ailleurs, notre époque, c'est une des richesses de notre époque, d'avoir mis en lumière cette solidarité à travers la chair et le sang, dans les liens de famille, dans l'hérédité. Allez, nous sommes des êtres de chair et de sang. Dieu lui-même a voulu avoir une famille. Et il y a des blessures qui marquent aussi nos vies familiales. Et ici, à Pelvoisin, Estelle, c'est pour sa famille, oui, sa place dans sa famille. Et elle a un attachement très fort. Et là aussi, il y a eu quelque chose qui a été guéri. Il y a quelque chose qui a été guéri. Alors, pour dire ça, j'ai aussi planté un peu le décor. Elle avait beaucoup d'affection pour sa maman. Dans ce qu'on écrit, elle était sans doute moins proche de son papa. Et elle dit d'ailleurs qu'ils n'étaient pas très bien assortis. Sa maman était plus pieuse. C'est quand ils sont arrivés à Paris qu'elle a agi avec son papa étant malade. D'ailleurs, elle a profité de la circonstance pour qu'un prêtre vienne visiter son papa. Et il a retrouvé la pratique religieuse à ce moment-là. Quel était-il cet homme? Je ne sais pas très bien. Il y a quand même un petit signe qui fait me réfléchir. Quand Estelle a été guérie dans la nuit du 18 au 19 février, vous savez ce qu'a dit son papa? Il a dit, nous avons retrouvé notre pain. Nous avons retrouvé notre pain. Super. Sa fille est guérie. Ah ben super, elle va pouvoir à nouveau gagner notre pain. Ah oui, hein. Oui, il y a quelque chose de dur. Et de fait, Estelle reste avec ses parents, dans la maison, comme je vous l'ai dit, après sa guérison. Mais de fait, c'est le Seigneur qui a pris possession de sa vie. Et ce que Jésus dit lui-même dans l'Évangile, on sera opposé dans la même famille, le père contre son fils, etc. Oui. Ben, elle l'a connu. Elle l'a connu c'est pas elle qui a provoqué, mais puisque le Seigneur l'avait guéri, elle s'est engagée au service. Alors, ça prenait une forme très concrète. Je vous ai peut-être dit, elle avait la main verte, elle était très douée. Donc, elle aimait fleurir l'Église, elle rendait service. Et puis, voilà, elle était disponible. Et ses parents en ont pris ombrage. Et ils sont devenus un peu jaloux. Et c'était au mois de juin, dans cette époque, juin-juillet, un jour, matin, tôt, elle les avait salués, puis elle était partie faire de l'ouvrage. Ils disent « Où est-ce qu'elle est ?» Ils ne savent pas qu'elle est dans la pièce. Et à un moment, elle les entend dire, eux ne savent pas qu'elle les entend. « Ah ouais, on la gêne, elle attend plus qu'une chose, c'est qu'on disparaisse. » Alors elle dit, elle écrit cela, elle dit, Oh, quelle blessure! Mais je rends grâce à Dieu. Parce que l'affection que j'avais à l'égard de mes parents était trop humaine. À la conscience qu'il y a quelque chose qui doit... un ordre nouveau. Quand Jésus nous recrée, il nous recrée. Il y a un ordre autre. Il nous redonne la vie. Il nous redonne tout. Et, ah oui, comme il le dit, en mettant le glaive, en séparant ce qui doit être séparé pour que ce soit uni en lui, la guérison, elle a été visitée. Et c'est très touchant. Je vous dis, elle a un style extrêmement concret, hein, comme elle raconte les choses avec une sobriété. C'est très objectif, son récit. Et puis, cette confidence, ouais. Heureusement, elle remercie. Alors, sa famille, dans ce que Estelle a souffert, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, qui concerne sa sœur aînée. Je vous ai dit, sa sœur aînée, Geneviève, qui avait 2 ans de plus qu'elle, s'est mariée très vite, à peu près au moment, je pense, si je compte bien, c'était juste avant qu'Estelle rentre au couvent. S'est mariée contre la vie de ses parents, avec un certain Jean-Baptiste Petitot. Et cet homme, Estelle dit, c'était un misérable. Pourquoi ? Il avait une bonne situation, mais en fait, il a délaissé son épouse. Ils ont eu 2 enfants. Une petite fille d'abord, qui portait le même prénom que sa tante, elle s'appelait elle aussi Estelle. Puis un petit garçon, dont j'ai oublié le prénom. Mais en tout cas, Geneviève a été délaissée par son époux, elle a souffert du froid et de la faim, si bien qu'elle est morte d'épuisement, en laissant ses 2 orphelins. Estelle, sa sœur, s'est dévouée. Alors, le beau-frère, il était en clérical, il bouffait du curé. Il avait dit que si un prêtre venait, il le mettrait à la porte. Hein. Alors, Estelle s'est débrouillée pour qu'à un moment où il était au travail, un prêtre vienne. Puis, à force d'insister, elle a obtenu que son beau-frère accepte que Geneviève revienne dans la maison familiale. Estelle l'a installée dans son lit. Et Estelle, Geneviève, comme ça, est morte paisiblement après s'être réconciliée avec ses parents. Elle a... Et donc, Geneviève est morte très saintement, 1864, réconciliée avec Dieu et sa famille, laissant donc 2 orphelins, mais le petit garçon ne lui survit pas, il meurt à peu près 1 an. Et le beau-frère en question, quelque temps après les funérailles, il écrit une belle lettre, tiens, encore une lettre, il écrit une belle lettre à Estelle, en lui disant... Je voudrais vous épouser pour donner une mère à mes enfants. Oui, il ne manque pas de toupet, le type. Hein. Il ne manque pas de toupet. Alors, elle lui écrit « M'occuper de mes neveux ». Donc, c'était avant la mort du petit. Oui, donc, c'est très peu de temps, quoi. « Vous pouvez compter sur moi. Quant au mariage, vous avez fait assez d'une malheureuse. Hein. Vous n'en ferez pas deux. » Mais concrètement, elle a dû s'occuper aussi de cette nièce. C'est pour ça que dans sa lettre, hein, à la fin, elle parle, ouais, et elle parle aussi du fait de devoir soustraire cette nièce aux mauvaises influences. Parce que le beau-frère, il va chercher à récupérer sa fille. Et quand, il y a, en 1876, hein, quand Estelle est guérie, là, mais durant le printemps, il revient à la charge. Hein, et ça la trouble. Et quand Marie lui dit du calme, c'est aussi par rapport à ça. Parce qu'elle a souci tellement légitime, quoi. Mais de fait, cette petite nièce, Estelle, dont la tante dit elle n'était pas très intelligente, va se montrer très ingrate. Elle va partir à Paris, va demander de l'argent, et puis ne donnera plus de nouvelles. Et Estelle est morte sans savoir ce qu'était devenue sa nièce. Et elle écrit... Elle ne peut pas savoir la souffrance qu'elle m'a causée. Mais je prie pour elle tous les jours. Et dans le récit qu'elle fait, on voit il n'y a pas d'amertume. La guérison peut se vivre aussi sous ce mode-là. La guérison est l'œuvre de Dieu, quoi. Il y a un échec aux yeux des hommes. Hein. Elle a fait tellement l'ingratitude. Et on ne voit pas d'amertume. Et en revanche, elle apprend, durant l'année 1877, que son beau-frère est malade. Il était fonctionnaire, donc il va dans un hospice pour être soigné. Les prêtres, à cause des lois anticléricales, n'avaient pas le droit d'aller dans ces hospices. Estelle se débrouille pour qu'une dame aille visiter son beau-frère. Et cette dame vient avec un scapulaire et apporte à cet homme le scapulaire en disant « Voilà ce que votre belle-sœur vous offre. » Et l'homme fond en larmes. Et dans son adolescence, il avait été au petit séminaire. Il avait tout plaqué, quoi. Mais là, le cœur de Jésus, ouais, l'emporte. Il se confesse et meurt quelques jours après.